Podcast Networks, Terra States.
Non, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique numéro 65. Anaël Navarro au micro et Ellie à la régie. Donc aujourd'hui, je vais présenter l'émission tout seul. Et oui, ça arrive, Pascal est en transport, mais un peu trop loin pour que sa voix porte jusqu'au micro. Donc l'émission d'aujourd'hui, le titre Aléa Acta Est. Et oui, encore, nous allons parler de l'Acta. Cela fait très longtemps, personne ne sait ce que c'est. D'ailleurs, même après cette émission, vous trouverez ça un petit peu flou. Les logiciels libres sont en danger. Et quelques adresses sur l'Albanel et France Télécom, et bien sûr la chasse-race à l'Adopi. Donc maintenant, tout de suite, les nouvelles du front.
Les nouvelles du front.
Des nouvelles du front aujourd'hui présentées et ponctuées de musique libre à plusieurs fois dans cette émission pour éviter que les auditeurs ne m'assassinent à la fin de l'émission à force d'entendre ma voix. Donc nous allons commencer tout doucement avec « La France aurait exigé le secret sur l'ACTA ». Et la riposte graduée. Donc effectivement, l'ACTA, personne ne sait trop ce que c'est, personne ne saura trop ce que c'est, ce qu'ils font. Donc c'est un grave aveu qu'a fait Nathalie Kosciusko-Morizet ce matin en présentant le groupe d'experts appelés à travailler sur la neutralité du net. Donc en conférence de presse, NKM a avoué ou prétendu ne rien savoir sur l'ACTA, le traité international de lutte contre la contrefaçon que négocient actuellement près d'une quarantaine d'États. Donc vous savez, l'ACTA, c'est mystérieux pour tout le monde, y compris pour nous. Nathalie s'est-elle défaussée lors d'une allocution? Le chapitre Internet de l'ACTA que Numérama analyse cette semaine concerne pourtant directement la secrétaire d'État à l'économie numérique, puisqu'il met en cause l'équilibre de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Donc, dans un billet, le journaliste Guéric Poncet s'interroge, je cite, « Mais qui négocie quoi ?» Donc, il rapporte ce nom à un négociateur européen en charge de l'ACTA. Bercy aurait envoyé des troupes négocier le traité en sus de la Commission européenne qui négocie au nom de l'Union et donc de tous les États membres. Mais en conférence de presse, NKM a assuré que la France n'avait pas missionné de négociateur. Donc le trouble est d'autant plus grand que selon Guéric Poncet, qui cite une source anonyme au sein de la Commission, c'est la présidence française de l'UE en 2008 qui a poussé pour l'extension de l'ACTA sur le terrain de la lutte anti-piratage et pour la protection des négociateurs par le secret le plus absolu. Donc à cette époque-là, Nicolas Sarkozy luttait contre le Parlement européen qui, via l'amendement 138 au paquet télécom, s'opposait à la riposte graduée à la française. Donc il a pu vouloir se servir de l'ACTA pour imposer par le haut Parlement européen la riposte graduée que les eurodéputés rejetaient. Ça n'est que lors du Conseil constitutionnel a rappelé l'évidente nécessité de recourir au juge avant toute suspicion de l'accès à Internet que le président français a lâché du lest au niveau européen et peut-être aussi au niveau international. Donc, quant au secret, lui aussi pourrait enfin disparaître sous la pression du Parlement européen. 4 eurodéputés, dont la française Françoise Castex, ont soumis au Parlement une déclaration écrite dans laquelle ils exigent la plus grande transparence sur l'ACTA. Elle devra obtenir d'ici 3 mois une majorité de signatures au Parlement pour être officiellement adaptée. Donc je cite, « Il s'agit d'une occasion importante pour les citoyens d'agir contre l'ACTA et de protéger l'Internet. » Donc chaque citoyen européen qui aime le net et doit contacter les eurodéputés de son pays et les inciter à signer cette déclaration écrite. Donc c'est ce que disait Arang Jeremy Zimmerman, porte-parole de la quadrature du net. Donc voilà, cette information nous a été donnée par le site Numérama, www.numérama.com, et écrit par Guillaume Champeau. Donc on va s'arrêter d'abord pour un petit passage musical, encore une fois pour ponctuer nos petites nouvelles du front, avec une musique donc qui s'appelle Angry Machine de l'album The Ugly Army de Fresh Body Shop, et cette musique est sous licence Creative Commons by NCND 3.0. Et voilà, c'était The Angry Machine de l'album The Angry Army de Fresh Body Shop sous licence Creative Commons by NCND 3.0. Donc cette musique, vous pouvez la retrouver sur le site www.dogmazic.net. Donc vous êtes sur Divergence Numérique 93.9 ou alors sur notre streaming sur divergence-fm.org. Nous reprenons les nouvelles du front. Donc, Albanel risque 2 ans de prison en devenant directrice à France Télécom. Donc, encore une fois, quelqu'un qui arrive à diriger une société et va s'encourir des petits problèmes politiques. Enfin, du moins, nous verrons bien en fonction de l'évolution de cette affaire. Donc, la nomination de Christine Albanel à la direction de France Télécom pourrait tomber sous le qualificatif de prise illégale d'intérêt, donc passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Donc c'est officiel, Stéphane Richard, qui deviendra lundi le directeur général de France Télécom, a confirmé que l'ancienne ministre de la Culture, Christine Albanel, pilotera la communication externe, interne, le mécénat et la stratégie des contenus à la direction du groupe. Donc c'est une femme intelligente qui peut apporter beaucoup, a-t-il confié au journal du dimanche. Il n'y a rien de politique dans cette arrivée, promet-il. Rien de politique peut-être, mais cette nomination peut néanmoins relever du code pénal, plus exactement de l'article 432-13 qui condamne la prise illégale d'intérêt. La disposition vise le fameux pantouflage, puisqu'il punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour un ancien détenteur de l'autorité publique de travailler pour une entreprise avec laquelle il a eu des liens d'influence, sauf à respecter une prescription de 3 ans. Donc je cite, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait par une personne ayant été chargée en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de 3 ans, suivant la cessation de ses fonctions. Donc l'aliéna 3 du même article précise qu'est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé, ce qui est effectivement le cas de France Télécom aujourd'hui. Donc il semble évident qu'en tant que ministre de la Culture et de la Communication, Christine Bonnel assurait la surveillance ou le contrôle de France Télécom. Mais on peut citer des exemples précis relevant d'un article encore qui est celui du 432-13, les fameux acteurs, les accords Olivienne sur la riposte graduée, qui sont une forme de contrat. Donc ils ont été signés par France Télécom et par le gouvernement après des négociations cadrées par le ministère de la Culture. Donc mieux, lors des débats sur le projet de loi sur l'audiovisuel public à l'Assemblée nationale, Christine Albanel s'était opposée à l'amendement qui prévoyait d'interdire à Orange de proposer des contenus disponibles exclusivement à travers son réseau. Donc, une stratégie commerciale qu'elle va défendre en tant que responsable de la stratégie des contenus de France Télécom, ce serait nier toute concurrence entre les distributeurs de services, lesquels ne pourraient plus se démarquer aux yeux du consommateur, avait-elle argumenté à l'Assemblée. Donc problème éthique supplémentaire, comme en témoigne un article de Znet de décembre 2008. Le jour même du vote de cet amendement, le 17 septembre, Christine Albanel recevait Orange rue de Valois pour soutenir la signature d'un accord avec les syndicats de producteurs et les sociétés d'auteurs. Trois petits points. Hein. Donc, soumettant le bouquet d'Orange TV Cinéma à des obligations d'investissement dans la création d'audiovisuels. Donc, c'est assez impressionnant les actions qui ont eu entre Christine Albanel et Orange. Et comme nous le signalent plusieurs lecteurs, l'article cité ne s'applique pas aux anciens ministres. C'est ce qu'a jugé le Conseil d'État lors de la nomination de Jean-Jacques Aligon à la présidence de TV5 en 2005. Donc juridiquement, il ne semble donc pas possible de s'opposer à la nomination de Christine Albanel, qui n'était au sens de la loi ni fonctionnaire ni agent d'une administration publique. Donc politiquement, c'est autre chose. Comment justifier dans l'esprit que ce qui s'applique aux fonctionnaires ne s'applique pas aux ministres de tutelle ? Donc cette source nous était toujours offerte par Numérama. Je vous invite donc à passer sur le site de Numérama ou alors de passer sur le site de divergence-ferme.org puisque tous nos articles et nos sources y sont divulgués. Donc je vous invite à participer aussi sur le chat de l'émission et de la radio sur les news qui vous sont données, donc sur IRC, sur Evolunet et sur le channel d'IS Divergence FM. Nous allons repartir sur un petit passage musical qui nous fera toujours du bien dans cette émission que je vais animer avec cette petite voix qui au bout d'un moment va vous énerver un petit peu. Donc un peu de musique fera du bien. La musique donc sera de Domre. Donc Dom Oxic, c'est aller au morceau. Et la musique présentée et sous Creative Commons by NCND. Et la musique s'appelle Réalité. Et donc voilà, la musique s'est terminée un peu abruptement, c'était Réalité, donc d'Ambre, c'était sous licence Creative Commons Non Commercial Sampling Plus 1.0. Vous êtes donc de retour sur Divergence Numérique, émission sur Divergence FM 93.9 et sur divergence-fm.org. Pour ces nouvelles du front, nous continuons à parler donc un peu de l'Hadopi et du Conseil constitutionnel. Donc pour Hadopi et contre le logiciel libre, Michel Charasse entre au Conseil constitutionnel. Donc en nommant le sénateur Michel Charasse au Conseil constitutionnel, Nicolas Sarkozy apporte une voix dissidente au soutien de la liberté d'expression sur Internet. L'ancien socialiste est favorable à l'Hadopi, qu'avait censuré le Conseil, et contre la protection du logiciel libre face au logiciel propriétaire. Donc Nicolas Sarkozy n'a pas aimé la censure par le Conseil constitutionnel de la loi Hadopi. Pire encore, dans leur décision, les sages ont considérablement réduit la possibilité pour le gouvernement d'imposer un filtrage du net sans recours à l'autorité judiciaire. Ça n'est donc pas seulement la lutte contre le piratage que le Palais Royal a bridé, mais bien toute la politique de contrôle d'Internet impulsée par le président de la République. Heureusement, le sénateur Michel Charasse, qu'il vient de nommer au Conseil constitutionnel, devrait lui être donc d'un certain secours. L'ancien socialiste du PS en 2008, pour des raisons d'appareil politique, ne s'est pas distingué ces dernières années par sa défense d'Internet. On se souvient qu'en 2006, lors du débat sur la loi DADVSI, dont nous avons beaucoup parlé, le sénateur s'était opposé à l'interopérabilité des DRM en fustigeant les intégristes du logiciel libre, disait-il. Ce n'est pas en violant le droit de propriété, la base du droit français et du droit européen, que nous défendrons notre place ni dans l'univers de la culture, ni dans celui du numérique, y avait-il défendu à ce moment-là. Ses propos et son opposition au logiciel libre avaient même provoqué une manifestation à Paris. Plus embêtant, alors que nombre d'internautes et de parlementaires avaient prévenu de l'inconstitutionnalité du dispositif de riposte graduée prévu initialement dans l'autorité judiciaire, Michel Charasse n'avait trouvé rien à redire puisqu'il a voté en faveur du projet de loi au Sénat. Donc ses amis socialistes avaient pourtant préféré s'abstenir. Il est vrai que les sages n'avaient pas trop été sévère à l'égard du projet de loi. Il l'avait juste trouvé contraire à la présomption d'innocence, à la liberté d'expression et au respect des droits de la défense. Contre la suspension de l'accès à l'Internet imposée sans recours préalable au juge, le Conseil avait estimé qu'il s'agissait d'une violation de la liberté d'expression et de communication. D'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des droits et liberté, bien sûr. Donc cet article nous est toujours proposé par Numérama, et je pense que nous allons encore en parler beaucoup. C'est les problèmes de loi, DADVSI, les problèmes de personnes contre les logiciels libres. Espérons que ceci ne va pas durer. Du moins, nous verrons bien ce que Michel Charasse va préparer donc, une fois rentré au Conseil constitutionnel. Et vous pouvez donc nous écouter sur Divergence Numérique pour avoir ces informations-là. Nous allons repartir sur un petit passage musical, ce qui nous fera du bien toujours dans ces petites nouvelles du front. Et nous allons donc écouter Les Guerriers de l'Arc-en-Ciel, donc le petit album Aller au morceau, et la musique s'appelle Action et elle est sous licence Art Libre.
Tous les êtres des rêves. j'ai la rage qui se dégage. Je me mets le gage de vous livrer ici ma page. Je m'adresse à tous ceux qui veulent vivre, recréer du lien, être libre de circuler sur cette planète sans que rien ne nous arrête. La Terre n'a jamais appartenu à l'humain, ou alors ce sont nos enfants qui nous la prêtent.
Nous rêvons d'une terre sans clôture et sans frontières, où l'homme réaliserait que la terre est sacrée.
Oh, j'ai la rage. J'aimerais vous livrer ici tout ce qui la nourrit, un pot pourri d'un trop de pas de vie. Si on reconnaît un pays à la façon dont il traite ses artistes, le futur en France s'annonce triste. Oh, j'ai la rage quand je sais qu'il suffirait que l'on marche ensemble pour se rendre compte que l'on se ressemble. Tu connais ces enfants, bordel, il est en toi, le réactiver, c'est ça la voie.
Nous rêvons d'une vie sans peur, sans démons pour nous ranger, où chacun destinée.
Pense ta vie petit, reste coincé dans la secte du profit, ou rêve grand, ta vie, elle deviendra une fable. Il faut rester honnête avec soi, nous ne sommes qu'un grain de sable qui judicieusement placé dans la plus grosse des machines peut enrayer. Te détourne pas de ta place, le miroir te le remettra toujours en face. Quitte le rôle de critique d'un soir, deviens acteur de l'histoire. Au nom des enfants et des anciens, prends la relève, marche ton rêve. Au nom des enfants, des anciens, prends la relève, marche ton rêve.
Ce rêve est en marche à chaque instant, un peu plus présent. Le compromis n'est plus possible, c'est maintenant qu'il nous faut vivre. Un peu plus présent. Le compromis n'est plus possible, c'est maintenant qu'il nous faut vivre. Les rêves des enfants nous porteront, les rêves des plus grands se révéleront. Que chacun sache qu'au fond de lui existe le souffle d'une nouvelle vie. Existe le souffle d'une nouvelle vie. Existe le souffle d'une nouvelle vie.
Et voilà, c'était Les Guerriers de l'Arc-en-Ciel, la musique donc Nous Verrons, qui est sous licence Art Libre. Donc je m'étais trompé tout à l'heure, ce n'était pas Action, c'était Nous Verrons. Donc vous pouvez écouter ces musiques sur www.dogmazic.net, notre fournisseur en musique sous licence ouverte. Et vous êtes toujours sur Divergence Numérique, donc sur Divergence FM 93.9 ou divergence-fm.org. Nous reprenons les nouvelles du front avec une nouvelle qui risque de ne pas ravir beaucoup d'entre vous. Donc oui, l'IPA, donc IIPA, veut-il faire de l'open source une menace aussi importante que le piratage ? Donc le logiciel libre sera-t-il bientôt relégué au même rang que le piratage ? La question reste entière, c'est ce que nous pourrons croire. L'IPA a en effet recommandé de lister les pays favorisant un peu trop de logiciels libres dans la liste des pays à surveiller, car ces derniers, en choisissant des solutions libres, menacent leur business. Les logiciels libres n'ont décidément plus forcément le regard de tout le monde, mais pourtant les logiciels propriétaires n'ont plus le vent en poupe. Donc depuis quelques années maintenant, on assiste à un vrai élan migratoire vers des solutions libres réputées plus sûres, plus évolutives et surtout moins onéreuses. Ce phénomène n'est pas seulement localisé en Europe ou dans n'importe quel autre pays industrialisé. Que ce soit en Inde, au Brésil ou en Indonésie, de nombreux nombreuses initiatives autour du logiciel libre se mettent en place. Même chose pour la France, avec le déploiement de Linux à l'Assemblée nationale et dans la gendarmerie. Et c'est 70 000 ordinateurs. Si plusieurs raisons ont été avancées pour justifier l'utilisation de la distribution Ubuntu, la première fut bien évidemment économique. Avec les logiciels libres, on n'a pas eu à passer de marché public sous toutes les couches. 70% sont en logiciel libre et nous en économisons donc à ce jour 700 000 licences de 25 à 300 euros l'unité. Donc lorsque chez nous, nous déployons un logiciel à 100 euros par poste, c'est un budget de 7 millions d'euros. Le logiciel libre est donc pour nous une manière de participer à la baisse du coût total de possession de notre parc informatique, avait alors expliqué le colonel Nicolas Géraud à CIO Online. Mais tous ne sont pas ravis de cette situation, donc à commencer par l'IIPAA, qui est l'International Intellectual Property Alliance. Donc c'est une coalition d'organisations dont l'objectif premier est de défendre les intérêts des industries américaines, dont l'activité repose sur la propriété intellectuelle. Donc certains des membres de cette alliance sont d'ailleurs bien connus des internautes, la RIAA, la MPAA et la BSA, donc Business Software Alliance, ou encore l'ESA, Entertainment Software Association. Donc selon Andrés Guadamus, un professeur de droit à l'Université d'Édimbourg, l'IIPAA cherche donc à stigmatiser les pays faisant le choix de migrer vers des solutions d'open source. Ainsi, des pays comme le Brésil, l'Inde, les Philippines, le Vietnam ou encore la Thaïlande doivent être placés ou maintenus dans le rapport spécial 301, géré par le représentant américain au commerce. Mais qu'est donc ce rapport spécial 301 ? Eh bien, c'est simple. C'est un document chargé de faire le point sur la pertinence et l'efficacité des droits de la propriété intellectuelle. Tout ceci à travers le monde. Concrètement, il se présente sous la forme d'une liste de pays que le gouvernement américain considère comme problématiques et de prendre des mesures si cela s'avère nécessaire. Et lorsque de tels intérêts économiques sont en jeu, les précautions oratoires d'usage lorsqu'on s'adresse à un pays ami et allié ne pèsent plus grand-chose. Il y a 2 ans, la MPAA avait recommandé à Barack Obama, alors en course pour la présidentielle, de prendre des mesures strictes contre l'Espagne. Le lobby jugeait alors que le pays ne luttait pas suffisamment contre le piratage. Ces dernières années, l'Espagne n'avait en effet pas envoyé les signaux attendus du côté de Hollywood. En effet, les juges espagnols avaient considéré successivement que l'utilisation des logiciels de peer-to-peer est légale en Espagne, tout comme les sites de liens vers les peer-to-peer, et même chose pour le Canada, qui s'était vu reprocher sa frilosité devant la contestation de la société civile, en repoussant une législation, bien sûr, très identique à notre chère loi DAD-VSI. Donc d'ordinaire, le rapport spécial 301 permet de recenser les pays ayant une législation un peu faible en matière de droit d'auteur. Maintenant, comme l'explique Andrés Guadamus sur son blog, l'IIPAA tente désormais de rajouter des pays favorisant un peu trop les free open source software, donc les FOSS, au détriment des bonnes vieilles solutions propriétaires et bien sûr payantes. Donc ainsi, l'IIPAA a protesté auprès du représentant américain au commerce en expliquant que certains pays ont promulgué ou vont adopter des lois qui vont rendre obligatoire l'utilisation de logiciels open source dans les institutions publiques, interdisant de fait aux solutions propriétaires de concourir pour décrocher un marché. Bien que le libre bénéficie d'une popularité bien plus importante que le propriétaire, est-ce pour autant une bonne idée d'imposer un tel ou tel type de logiciel? Donc pas pour Andrés Guadamus. Selon le professeur de droit, forcer les institutions à utiliser une solution technique spécifique est erroné. L'open source est un mouvement organique qui va de base jusqu'au sommet. En fait, une politique d'État n'est pas seulement contre-productif, mais c'est tout simplement le contraire. Donc c'est contraire aux principes même portés par le logiciel libre. L'open source ne doit pas être imposé, il doit s'imposer par son propre mérite, comme le devrait chaque logiciel. Mais est-ce vraiment le cas? Ces pays cherchent-ils vraiment à imposer quoi que ce soit? En ce qui concerne l'Indonésie, l'IIPAA note que le gouvernement indonésien a diffusé une circulaire dans tout le pays qui approuve l'utilisation et l'adoption de logiciels open source au sein des organismes gouvernementaux. Cette migration vers des logiciels libres et bien sûr gratuits doit permettre une réduction globale des coûts en logiciel. Rien ne semble ici évoquer la moindre obligation. Le gouvernement indonésien cherche à réduire ses dépenses. S'il encourage vivement l'utilisation des free open source software, il ne recherche cependant pas à les imposer, mais simplement à proposer une solution économique adaptée à l'économie du pays. Mais l'International Intellectual Property Alliance a une toute autre lecture de la situation. Donc, alors que l'IIPA n'a pas de problème avec l'un des objectifs de la circulaire, à savoir la réduction du piratage des logiciels, la politique du gouvernement indonésien, telle qu'elle est précisée dans ce document, affaiblit tout simplement l'industrie du logiciel et porte atteinte à sa compétitivité à long terme, en favorisant artificiellement les sociétés offrant des solutions open source. Voilà, des logiciels et bien sûr les services connexes. Une curieuse interprétation de l'IIPA, mais qui en dit long sur ses objectifs inavoués. L'IIPA ne souhaite pas entrer en concurrence avec les solutions libres, qui ont peut-être plus de chances de décrocher à un marché ou de séduire un utilisateur. Pour éviter que cela ne se produise, la coalition cherche donc manifestement à stigmatiser les pays faisant le choix du libre. Donc, plusieurs sociétés sont parvenues à bâtir un modèle économique basé sur l'open source software. Nous pourrions citer par exemple WordPress, qui est un système de gestion de contenu, Red Hat, une société éditant la distribution Linux, ou encore Canonical, qui soutient certains projets libres, bien sûr, comme Ubuntu. Donc, nous attendons encore avec impatience de découvrir un peu les agissements de l'IIPA. Toute personne qui aurait plus d'informations sur des décisions face au logiciel libre peuvent nous intéresser. Donc, venez participer à nos articles et à nos émissions sur notre chat. Mais restons vigilants, bien sûr, pour voir les actions de ces associations, des logiciels propriétaires et du logiciel libre. Nous le rappelons, il n'y a pas de guerre. Le seul intérêt que nous avons tous est de faire évoluer la technique. Donc cet article nous était fourni donc toujours par Numérama. Et donc nous allons partir sur un peu de musique pour couper cette nouvelle du front pour après par la suite attaquer sur les nouvelles logiciels. Donc pour la musique, ce sera Dom the Beer et la musique, ce sera 1964 qui est sous licence Creative Commons by 2.5.
Did I ever told you that your smell is in my mind? Did I ever show you all your gifts I get from the first time? Spring fever caught me, baby. Can't get it out of my mind. Whoa!
Et voilà, c'était Dumb the Beer 1964 sous licence Creative Commons by 2.5. Nous voilà donc de retour sur ces nouvelles du front, mais plutôt sur une partie logicielle. Donc là maintenant, nous allons parler d'OpenERP qui reçoit 3 millions d'euros pour accélérer son développement. OpenERP, le logiciel de gestion d'entreprise, vient de recevoir 3 millions d'euros d'investisseurs français. C'est une étape très importante pour OpenERP, car cette levée de fonds donne les moyens de se concentrer principalement sur les services de maintenance et de développement afin de faire évoluer rapidement le logiciel. Cette opération valide le modèle économique libre de l'éditeur OpenERP, une diminution des coûts commerciaux, marketing et de développement grâce au logiciel libre qui compense par le manque à gagner qu'est le revenu de la licence chez les concurrents propriétaires. Avec plus de 500 modules, OpenERP est une suite de logiciels de gestion d'entreprise. Il couvre la plupart des besoins d'une entreprise tels que la gestion de projet, la comptabilité, la gestion des ventes, la relation client, les gestions des stocks et la production ainsi que les ressources humaines et j'en passe. OpenERP est assez unique dans ce sens qu'il est assez simple pour être utilisé par des très petites entreprises ou des indépendants et à la fois assez complet. Donc si vous installez bien sûr plus de modules pour répondre à vos besoins. Pour satisfaire tous les besoins d'une grande entreprise, regardez ce genre de modules car ils peuvent combler les petits manques de la version sans module. Notamment en France, OpenERP est utilisé par des entreprises comme La Poste, Singer, ENA, bien sûr, le fameux ENA, et les nouvelles frontières. Donc OpenERP a toujours soutenu que le moyen le plus rapide de développer un logiciel de cette importance était une collaboration efficace entre quatre acteurs au besoin d'être très différents. La communauté, le partenaire, l'éditeur et bien sûr le client. La communauté contribue à l'évolution et reçoit tout ce qu'a fait l'éditeur. Les partenaires fournissent le service au client. L'éditeur assure l'évolution et la maintenance du logiciel à long terme. Et les clients apportent leurs idées et financent ainsi que... Toutes les améliorations sont financées ainsi. Donc l'OpenERP vient... également de sortir une offre software as a service où l'ensemble des services sont proposés en ligne, hébergement, maintenance, support, sauvegarde, etc. Donc vous pouvez la tester gratuitement sur le site http://odoo.com et vous pouvez donc vous renseigner sur l'OpenERP sur http://openerp.com. Donc pour les news logicielles, nous allons aussi couper ceci par un peu de musique libre et nous allons écouter donc Vol Phonique de l'album Live DBC et la musique c'est Drum Song Rhythm. Come on. Et voilà, c'était donc Volphonic Drum Song Rhythm de l'album Live DBC. C'est une musique sous licence Creative Commons by NCND 2.5. Toutes les musiques, vous pouvez toujours les retrouver sur le site www.dogmazic.net. Nous reprenons donc les nouvelles du front pour toujours une news logicielle, mais cette fois-ci, nous allons parler de Microsoft qui confirme son intérêt pour Linux et Unix, notamment par le projet Moonlight 2.0, soutenu aussi par Novell. Donc retour sur Moonlight 2.0 de Novell, où, pourquoi et comment l'univers Microsoft s'ouvre à l'open source. Donc je vais vous parler un peu de Moonlight à Silverlight. La distance est désormais infime, comme elle l'est désormais entre .NET de Microsoft et le monde de l'open source, via le programme Mono, de Novell bien sûr. Les ambitions de Novell, partenaire officiel de Microsoft sur ce terrain donc depuis 3 ans, s'affirment. L'éditeur de SUSE Linux ouvre des passerelles et ses alternatives vers .NET, mais Novell parachève aussi sa stratégie post-client Linux en le dotant de solutions multimédia de qualité. L'histoire retiendra que c'est Microsoft qui a activement épaulé Novell sur ce coup-là. Leur coopération porte ses fruits, c'est indéniable. Fini les sous-entendus, ce constat nous ramène au débat d'une table ronde animée en direct sur Internet en décembre dernier. Table ronde, webconférence Microsoft Novell. Donc avec la contribution de la société de conseil Solucom, elle montrait bien les enjeux de cette synergie. D'aucuns s'étonnent encore ou doutent même de ce partenariat. Le fait est que Microsoft ne veut plus ignorer le monde Linux, pas plus que le monde d'Unix. Novell a de quoi se réjouir. Les développements de Moonlight, qui se définit comme la version open source de Silverlight, ont été rapides et efficaces. Ils s'inscrivent logiquement dans la lignée du projet Mono, parrainé par Novell, qui n'est pas autre chose qu'une alternative à .NET de Microsoft. Ces co-développements sont associés au projet Banshee, parrainé par Novell. Donc je cite « Microsoft a joué le jeu avec beaucoup de fair-play, reconnaissent publiquement des développeurs de la communauté open source, comme Miguel Elcaza. Donc, autre élément de preuve, Microsoft a mis à disposition son MediaPack gratuitement. Il apporte notamment les codecs propriétaires utilisés dans Silverlight. Tout montre que cette coopération ne va pas s'arrêter là. Tandis que Silverlight version 4 est attendue pour mi-2010, Moonlight 2 s'annonce déjà comme une implémentation de Silverlight 2 intégrant des modules de Silverlight 3, visant par exemple à améliorer les fonctions vidéo et audio, comme le smooth streaming, ou diffuser à débit variable en fonction de la bande passante disponible. Moonlight 3, qui intégrera la 3D, est prévu pour automne 2010. Pour vous expliquer un peu ce qu'est Silverlight, c'est le pendant du Flash que l'on peut trouver un peu partout sur l'internet, mais à la sauce Microsoft. Donc cette partie-là, on peut espérer voir s'exploser des projets open source autour de ce genre de technologie qui restait encore très propriétaire, mais qui maintenant s'ouvre un peu plus au libre grâce à des alliances telles que Microsoft et Novell. Vous pouvez suivre cette news sur www.silicone.fr ou toujours à partir de notre site, donc sur Divergence Numérique. Rapidement, une petite news avant notre dernière coupure musicale. Orange se conforme aux exigences de la licence GNU/GPL. Donc on vous fait une petite suite à la news que l'on vous avait présentée la semaine dernière sur la Livebox et les logiciels libres qu'il y a dessus. Donc Orange a envoyé une lettre à tous les membres qui de leur contrat concernant la Livebox pour les informer donc par courrier électronique qu'il y a un portail d'assistance Orange désormais en ligne qui référence bien sûr tous les essentiels de ces logiciels libres. Donc vous pouvez avoir plus d'informations sur le site d'Orange et sur cette news sur le site donc LinuxFR. Nous allons repartir sur un dernier petit passage musical, donc une musique de Volphonic, Bob Marley et Disrupt de l'album Jam in Sauce, et la musique s'appelle La Brandade. Mmh.
Thank you.